un enfant qui joue avec les allumettes, hein, au risque de mettre le feu, il se fait gronder. Mais là, on a joué avec un gros feu, hein, et on ne se fait pas gronder. Et les chefs prennent même la défense de celui qui a l'allumette dans les mains.
Interview.
1 Interview du jour.
Bonjour à tous, ici Aurélie pour RDIWA à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Je suis en compagnie aujourd'hui de Marc Isoire et Mireille Verdet. Bonjour Marc, bonjour Mireille.
Bonjour.
Alors aujourd'hui vous représentez l'association ADTE. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association ?
La DTE, c'est Association d'Iwas pour la transition énergétique, qui a été créée officiellement au mois d'août de cette année, mais elle a été précédée par un collectif anti-nucléaire, sortir du nucléaire plus exactement, à propos des chaînes humaines et particulièrement celle du 11 mars qui reliait Lyon à Avignon. Ne voulant pas être toujours contre quelque chose, on a essayé de changer notre intitulé pour être pour le contraire. Voilà la raison de la création Association d'Iwas pour la transition énergétique.
Donc voilà, vous êtes pour la transition énergétique. Alors du collectif à l'association, comment vous en arrivez à vous développer ?
En fait, la chaîne humaine du 11 mars 2012 a eu dans le DIWA beaucoup de succès, si on peut parler ainsi, et elle a réuni 160 personnes dans les cars, plus toutes les personnes qui sont venues dans les voitures. Nous étions près de 250 à participer à cette chaîne humaine. Et en fait, l'animation, on était parti essentiellement de Marc, auquel se sont ajoutées deux ou trois autres personnes. Et nous voulions, face à ce succès, prolonger l'action et la prolonger positivement. Donc, nous avons proposé aux personnes qui avaient participé à la chaîne humaine par l'intermédiaire d'un courriel, nous leur avons proposé de nous retrouver. Nous pensions être peu et nous étions quand même 43 personnes à cette réunion, bien décidées à agir pour la transition énergétique. À partir de là, nous avons pensé que le mieux pour avoir une identité et pour pouvoir intervenir auprès des collectivités, auprès d'autres associations, était de se constituer nous-mêmes en association et ainsi aussi d'étoffer l'équipe qui anime l'association. Nous avons un conseil d'administration de 9 membres très actifs, plus des personnes qui se rajoutent régulièrement à nos réunions pour prendre les décisions.
Donc à partir du moment où on devient adhérent de votre association, on bénéficie aussi de toutes les informations que vous recevez et que vous distribuez aussi, hein, c'est ça ?
Ah oui, tout à fait. Nous communiquons à toutes les personnes qui ont participé à la chaîne des informations générales sur sortir du nucléaire et sur la transition énergétique. Et puis, toutes les personnes qui sont adhérentes, puisqu'il y a des sympathisants et des adhérents, comme dans toute association, tous les adhérents, des informations beaucoup plus précises.
On parlera bien sûr hein, de la marche du 25 novembre hein, qui est prévue. On en parlera à la fin. Par contre, voilà, aujourd'hui, justement, vous parlez de transition énergétique. La France, où en est-elle par rapport à cette politique de transition ? Est-ce qu'elle y adhère ? Ou bien justement, il y a un effet bloc et vous vous retrouvez face à des résistances ?
Oui, il y a des résistances. Et moi, je dirais même plus... nos gouvernants, nos médias, tout ce qui peut nous apporter des informations sont plutôt pro-nucléaire. Sans vouloir trop le dire, on clame d'un côté qu'on est pour les énergies renouvelables, mais de l'autre côté, on fait tout ce qu'on peut pour les empêcher de se développer. Exemple, la suppression des subventions pour l'installation des panneaux photovoltaïques ou autres. Donc, ce n'est qu'avec la participation citoyenne que l'on peut faire bouger les choses. Et depuis le début de l'année 2012, il y a eu des chaînes humaines dans la région Rhône-Alpes tous les quatrièmes dimanches, un mois sur deux, disons. Il y en a eu une à Aubenas, il y en a eu une à Valence, il y en a eu une à Montpellier, je crois, plusieurs, pour répéter à nos gouvernants de tous bords que nous ne sommes pas pour continuer l'énergie nucléaire.
Alors Marc, tu parlais d'une suppression de subvention, c'était une aide à l'installation aux panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous pouvez me parler de cette suppression de subvention ?
C'est peut-être pas une suppression totale, mais une très forte diminution. Nous, on a des panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire sur notre toit. Ils nous sont revenus à moitié prix. Ces aides-là ont été beaucoup, beaucoup diminuées. Pour les éoliennes, c'est pareil. Pour toutes les énergies.
Mais cette diminution s'est faite progressivement. Ouais. Alors, à l'heure actuelle, nous avons changé de gouvernement. Et est-ce que d'autres aides vont être mises en place ? Peut-être. Dans son discours inaugural de la conférence sur l'environnement, François Hollande a mis en priorité l'équipement des logements. Et en particulier pour éviter les gaspillages d'énergie. Alors, on suppose que à cette intention vont être associées des incitations. Bon, pour l'instant, on en est là. C'est un petit peu aussi pour cela qu'il est grand temps que les citoyens se manifestent pour que maintenant on passe aux actes. Un autre exemple qui est alors là très parlant, pendant la campagne électorale, tout le monde sait que la centrale de Fessenheim a été un des objets de discussion, puisque cette centrale est très âgée, elle a 35 ans de fonctionnement. Normalement, au bout de 30 ans, une centrale ne présente plus les garanties de sécurité et elle devrait être arrêtée. Et l'Agence pour la sûreté nucléaire a demandé que dans l'année soient réalisés des travaux très important. Ces travaux très importants, ce chiffre, c'est très difficile à fixer, hein, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver, mais on pense à peu près à 100 millions d'euros.
Donc de travaux d'aménagement, de sécurité.
Hein, et ils peuvent être beaucoup plus élevés. Or, par ailleurs, François Hollande déclare qu'il agira pour la fermeture de Fessenheim et que cette centrale sera fermée en 2016. Alors, on se demande vraiment pourquoi on va consacrer autant d'argent à des travaux pour une centrale qui va être fermée. D'autant plus que si on consacre beaucoup d'argent, il y aura une raison de ne pas la fermer, c'est de dire on ne va pas gaspiller tout l'argent qui a été mis 4 ans avant. Voilà, si vous voulez, des signes qui ne sont quand même pas très positifs pour passer à la transition énergétique.
Alors, pensez-vous que c'est l'argument, le contre-argument qui vient nous troubler dans le but de nous manipuler, justement ?
Alors, peut-on parler de manipulation ? Je pense que nos gouvernants sont pris entre différents intérêts et entre différents jeux politiques aussi. Il est certain qu'il faut dire et il faut affirmer que les travailleurs de Fessenheim ne seront pas mis au chômage. Il faut aussi rassurer les industriels qui disent nous ne voulons pas d'augmentation de l'énergie, du prix de l'énergie, ce qui de toute façon va se produire, c'est certain. Et donc, pour ne pas brusquer les gens, on essaye d'agir par un discours qui est un discours relativement modéré. Et puis un discours à court ou moyen terme, puisqu'on reporte un peu les problèmes ainsi. Bon. Après, que se passera-t-il ?
Alors Marc, je te vois réagir.
Oui, je voudrais compléter, excuse-moi. oui, on a dans les médias et les gouvernants ont le même discours. On supprime d'un côté les subventions et on matraque à la télévision que l'énergie nucléaire est la moins chère, ce qui est complètement faux, parce qu'on ne compte pas tous les frais possibles, surtout les frais d'entretien des centrales dont vient de parler Mireille, et le traitement des déchets. Ça, c'est payé non pas directement, mais sur les impôts de toute la population. Donc ce n'est pas pris en compte dans le calcul de l'électricité nucléaire. Actuellement, elle vaut 11 centimes. Et effectivement, elle est la moins chère sur le marché avec ce tarif-là. Mais si on compte tout, elle est à 49 centimes le kilowattheure.
Donc les chiffres sont biaisés. J'en conclus que nous sommes donc manipulés. Quelles sont aujourd'hui les alternatives à l'énergie nucléaire ? Vous parliez tout à l'heure de panneaux photovoltaïques. On peut en évoquer quelques-unes comme ça ?
Oui, il y a toute une série d'énergies renouvelables. Alors je précise qu'une énergie renouvelable, comme l'adjectif le dit, c'est une énergie qui n'entame pas la capacité naturelle que l'on peut toujours avoir en quantité égale d'une année sur l'autre et des dizaines d'années après. Donc les énergies renouvelables, il y a le solaire thermique, donc simplement pour l'eau chaude sanitaire. Il y a les panneaux photovoltaïques qui permettent de fabriquer de l'électricité avec les rayons du soleil. Il y a quelque chose que l'on utilise depuis très longtemps, mais qui était tombé au fond de notre mémoire, l'hydroélectricité.
Même l'énergie des vagues.
Oui, la marée motrice, l'énergie marée motrice. Il y a l'éolien, les éoliennes, donc. Et puis, il y a tout ce qui est biomasse, le bois, hein, la biomasse solide. Le biogaz aussi, c'est-à-dire le traitement des déchets pour en fabriquer un gaz, et puis les biocarburants. Alors là, j'ajouterai une précision personnelle, à condition de ne pas prendre les champs qui servent aux agriculteurs pour fabriquer des cultures vivrières.
C'est important de le dire.
Et puis, il y a encore une autre énergie renouvelable, la géothermie. La chaleur du sol.
Effectivement, autant de sources inépuisables et comme le disait très justement Marc, qui ne viennent pas entamer finalement le potentiel de la planète.
J'aurais voulu dire aussi que peut-être ce qu'il faudrait aussi, c'est considérer complètement le problème de l'énergie. Parce que on nous a beaucoup poussé à nous équiper tout électrique. C'est une tendance naturelle chez l'homme à consommer de manière absolument démesurée. Or, la première des énergies renouvelables, c'est celle qu'on n'utilise pas, c'est-à-dire qu'on ne gaspille pas. Et donc, il faudrait commencer par plus de sobriété, ce qui n'entacherait en rien notre vie quotidienne. Évidemment, il y aura toujours des gens pour dire « on ne va pas s'éclairer à la bougie », ce qui est complètement ridicule. Il n'a jamais été question de cela. Il faudrait peut-être commencer par ne pas gaspiller. Et ça, c'est très facile. Il y a des petits gestes de la vie quotidienne qui entraînent des économies qui ne sont pas négligeables, parce que quand on arrive à économiser 200 euros sur sa facture d'électricité, on n'est pas mécontent à la fin de l'année. Et ça sert notre porte-monnaie et ça sert la planète. Bon, il faudrait aussi passer à une efficacité énergétique plus grande. Est-ce que l'électricité est la meilleure énergie pour nous chauffer ? C'est une question. Et cette énergie que nous dépensons pour nous chauffer, est-ce que nous ne la gaspillons pas parce que nous n'avons pas des équipements, en particulier dans nos logements, des équipements qui soient suffisamment étanches. Et puis, Marc a beaucoup développé les énergies renouvelables, j'y reviendrai pas. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que jusqu'à maintenant, on a beaucoup essayé de trouver des solutions qui soient des solutions globales. Et il faudrait certainement revenir à des solutions plus décentralisées et des solutions qui soient plus territorialisées. On pourrait très bien utiliser des sources d'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit le méthane, que ce soit, tu as parlé de la géothermie, etc., qui peuvent être utilisées localement. Bon, le vent de la même manière, hein, il faut être dans une région où il y a du vent pour avoir des éoliennes, encore que... Bon. Mais tout cela nous amènerait à avoir des solutions qui soient beaucoup plus décentralisées.
Et adaptées, pour le coup, à la région.
Et adaptées à la région. Et cela, pour l'instant, on n'y est pas du tout prêt en France. Et c'est autant une opposition calculer, je dirais, que aussi une opposition culturelle.
À long terme, l'énergie nucléaire, quel risque ?
Le risque à long terme, c'est même pas à long terme, c'est immédiatement. Hein, risque nucléaire est intolérable quand on pense que dans les environs de Fukushima, la majorité des enfants ont un cancer. C'est intolérable. Quand on pense que...
C'est encore un peu prématuré justement, de l'affirmer aussi fortement. Quand on voit déjà les difficultés qu'on a à faire reconnaître les cancers à Tchernobyl, et c'est pourtant là une évidence.
Je te montrerai l'article là. Une autre comparaison avec Fukushima. Si, enfin, il faut savoir quand même qu'au Tricastin, il y a un incident dit mineur tous les jours.
On peut avoir un exemple d'incident mineur ?
Bah, une fuite dans les réacteurs. Voilà, un incident mineur qui peut être très majeur un jour. Hein ? Alors, dans le Tricastin, vous allez me répondre, on n'a pas de tsunami, bien sûr, mais on est quand même sur une faille sismique, toute la région sud-est de la France. Donc, un tremblement de terre n'est pas impossible. Et s'il y avait un tremblement de terre, toute la Provence et tout le Diwa disparaîtraient.
Donc on va rappeler combien de centrales nucléaires notre région abrite ?
Il y en a 58 en France, dans le couloir rhodanien. 14, voilà.
Donc voilà, on peut imaginer qu'en cas de mouvement sismique, voilà, 14 centrales nucléaires, ça peut faire du mal. Hein.
Thank you.
Mireille a évoqué les économies d'énergie à titre familial. Donc je voudrais en dire un peu, puisque l'année dernière, l'hiver dernier, nous avons participé à une famille à énergie positive, ça s'appelle, à cette opération conduite par le Conseil général de la Drôme et l'ADIL, l'Agence départementale de l'information sur le logement. Les départements de l'Ardèche et de la Drôme, c'était leur première expérience, mais cette expérience dure depuis plusieurs années sur les autres départements de la région Rhône-Alpes. Ça consiste à faire des économies d'énergie sans avoir engagé des travaux importants.
D'installation.
Simplement par un changement de comportement. Par exemple, ça paraît tout bête, mais éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, c'est important, surtout auprès des enfants. Mettre un rideau derrière les portes qui donnent à l'extérieur. Malgré le double vitrage, c'est très efficace. On a mis aussi des ampoules à détection de présence. Si on ne veut pas être forcé d'éteindre la lumière, c'est aussi efficace. Il y a tout un tas de petits gestes comme ça. Baisser la température aussi dans le logement. On n'a pas besoin d'une température supérieure à 20 degrés dans un logement 18-19, un peu pour ceux qui sont un peu plus frileux, ça suffit.
Et on met un petit pull en plus.
Et on met un petit pull en plus. Là, il existe un petit livret édité donc par l'ADIL où on donne 100 conseils utiles.
On peut peut-être citer les références de ce livret, justement. Hein, si...
Il s'appelle « 100 éco-gestes », le quiz. C'est dans le cadre de cette opération « Famille à énergie positive ».
Oui.
Donc, cette opération est prolongée cette année. L'année dernière, on avait une équipe de 10 familles sur le Diois. Mon épouse était là. La capitaine, disons, voilà, c'était le terme, mais l'animatrice, disons, de ce groupe. Et cette année, donc, nous renouvelons l'expérience avec une partie des familles qui étaient là l'année dernière et des nouvelles. Et aux dernières nouvelles, il va y avoir un deuxième groupe sur 10. Donc, j'engage tous ceux qui sont intéressés pour faire, comme disait Mireille tout à l'heure, de 150 à 252 euros d'économie sur les énergies domestiques, électricité, chauffage, et aussi, ça concerne aussi l'eau, de contacter soit le Conseil général, soit l'ADIL Vallon.
Donc on vous mettra les liens, messieurs, dames, les auditeurs d'Air du Bois,
ou encore la DTE, ADIL. C'est mon numéro de téléphone, 04 75 21 19 10.
Est-ce que sur le risque nucléaire, on peut revenir un petit peu, parce qu'on a eu cette petite discussion entre nous, qu'il y ait des incidents tous les jours, Marc a raison, mais pas des fuites dans les réacteurs, parce que c'est un grave accident. Et quand malheureusement ça arrive, c'est pas qu'on le sait, on le sait pas, mais c'est pas tous les jours, sinon la planète... Mais par contre, tu as raison, des fuites dans les tuyauteries, on a souvent, des pannes, des petits incendies, oui, mais pas une fuite dans les réacteurs. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que quand on parle, on emploie parfois des choses, des mots qui sont pas tout à fait justes. Donc il faut, je pense, donner un gage de sérieux et quitte à être un peu en deçà de la vérité, malheureusement, mais être toujours pour pouvoir être considéré, que tous nos propos soient considérés avec sérieux.
Avec justesse surtout. Ouais.
Par contre, je pense que quand Marc a dit les conséquences malheureusement d'accidents comme Fukushima ou Tchernobyl, ce sont des cancers qui se généralisent, des maladies, une mortalité infantile excessivement forte, et puis tout un environnement qui est complètement détruit. Actuellement, autour de Fukushima, donc, dans les eaux autour de Fukushima, 40% des poissons sont irradiés et ne peuvent pas être consommées. Cette irradiation diminue au fur et à mesure qu'on s'en éloigne, mais bien entendu, cela pose des problèmes énormes. Les terres sont complètement irradiées. Donc, on ne peut pas consommer les légumes qui ont poussé sur ces terres.
Et pourtant, les malheureusement, poissons, les cultures existent toujours et elles nourrissent encore la population.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, le drame, c'est que même la population en vient à... non pas nier cette radioactivité, mais à l'occulter, parce qu'elle a besoin de se nourrir, elle a besoin de vivre.
À l'accepter.
Ceci étant, l'acceptation est largement aussi orchestrée par soit un silence, soit un discours qui va dans le bon sens, dans le sens où vous ne craignez rien, bien entendu.
La désinformation.
La désinformation. Il faut aussi quand même, quand on parle du nucléaire, parler de la durée de la radioactivité et des millions d'années dans lesquelles on engage des générations futures, des terres qui seront définitivement radioactives. Marc disait aussi qu'on consacrait énormément d'argent pour les déchets. Malheureusement, on sait aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde devrait savoir, si on ouvre les oreilles, qu'il n'y a pas de solution pour les déchets nucléaires.
Oui, on va le rappeler ça si vous voulez bien. D'ailleurs, qu'est-ce que deviennent les déchets nucléaires alors ?
Alors, actuellement, il y a un seul cimetière pour déchets nucléaires, parce que l'article s'appelait comme ça, sous terre, donc on les enfouit sous terre, en pensant que sous terre, avec l'épaisseur de terre qu'il y a dessous, ils seront moins dangereux que si on les laisse à l'air libre, ce qui est peut-être vrai au premier abord, mais dans des fûts, ils sont dans des fûts, donc ces fûts vont inévitablement être corrosés. Oui. Donc la radioactivité, à un moment ou un autre, dans 10 ans, dans 20 ans, ou dans 50, ou dans plus, la radioactivité va sortir, va contaminer la terre qui est autour de ce cimetière, les cultures qui, évidemment, seront dessus, à la surface de la terre, et donc c'est un problème non résolu, c'est un problème reporté à plus tard sur les générations futures. Est-ce qu'on a le droit de se débarrasser de nos problèmes sur les générations futures ?
Oui, disons que les bidons prennent la rouille, c'est ça, hein, et qu'ils deviennent poreux et que de toute façon, les déchets vont s'échapper d'une manière ou d'une autre de ces fameux cimetières à déchets nucléaires.
Et en plus, on les transporte d'un endroit à l'autre, de la Hague en Allemagne, de l'Allemagne en faisant prendre des risques à toute la population des villages et villes traversées.
Oui, sur l'itinéraire compris, quoi. Mm-hmm. Oui. Est-ce qu'à la DTE, vous êtes soutenu par le département, la région ? Est-ce que vous avez du soutien de nos institutions ?
Des institutions.
Je crois qu'il faut quand même dire que nous sommes une association très jeune, puisque nous datons de cet été. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore sollicité les institutions. Nous ne pouvons pas dire que ce sont des mouvements qui, pour l'instant, ont beaucoup de soutien.
Moi, j'ajouterais simplement qu'on fait partie de Sortir du nucléaire 2607, dans Dromardèche, et de Sortir du nucléaire national, dont le siège est à Lyon.
Donc, on comprend bien la difficulté aujourd'hui pour le gouvernement français de mettre en œuvre la transition énergétique. Est-ce que vous savez quelles sont les opinions de nos voisins européens ? Bon, on peut peut-être évoquer l'Allemagne. Ou d'autres ?
On a trois pays autour de nous qui ont abandonné le nucléaire. La Belgique, l'Allemagne, l'Italie. Et l'Espagne en parle pour l'instant. Donc vous voyez qu'on n'est pas non plus, comment dire, on n'est pas seul dans cette lutte-là. Voilà, mais ces pays-là ont se sont engagés dans les énergies renouvelables.
Et c'est l'Allemagne, justement, donc c'est Angela Merkel qui a pris la décision d'abandonner le nucléaire. Cependant, alors je ne sais plus quel pourcentage cette énergie nucléaire représentait, cependant aujourd'hui ils se font livrer par d'autres pays, Mais cette énergie livrée par les autres pays, d'où vient-elle ?
Non, alors, et je crois qu'il faut être assez juste. Ils ne sont pas livrés, ils sont excédentaires en production énergétique. Mais il y a des pointes d'énergie qui, effectivement, ont demandé, à un moment donné, une importation d'énergie vers l'Allemagne. Et c'est ce qui s'est passé avec aussi, d'ailleurs, une réouverture d'une centrale dans la période où il a fait excessivement froid. Donc il y a eu là tout un tollé, finalement l'Allemagne importe l'énergie nucléaire qu'elle fait produire en France. L'Allemagne n'y tient pas du tout parce que s'il y a un risque nucléaire en France, l'Allemagne risque bien d'en avoir des conséquences vu le peu de distance qu'il y a entre notre pays et le leur. Donc je crois que là il faut absolument ne pas monter en épingle ce qui s'est passé pendant une période très courte, qui est quand même aussi une période de transition pour l'Allemagne. C'est pas du jour au lendemain que l'on décrète qu'on arrête la production nucléaire. Voilà. Mais il y a des pays qui prennent la décision de ne plus importer d'énergie de provenance nucléaire. Espérons qu'on va en arriver là bientôt.
Alors il paraîtrait, hein, je n'en sais rien, hein, vous êtes mes informateurs, qu'il nous faudrait à peu près 30 ans en France pour abandonner clairement le nucléaire.
Si on met sur les énergies renouvelables tout l'argent que l'on met sur le nucléaire en ce moment, il ne faudra pas 30 ans. Raisonnablement, 10 ans, ça devrait suffire. Certaines personnes parlent de moins, mais on va être raisonnable, 10 ans, ça suffit. C'est pour ça qu'on s'appelle sortir du nucléaire. Pas abandonner le nucléaire du jour au lendemain, ce qui entraîne évidemment la remarque de la bougie ridicule. Bien sûr, l'énergie nucléaire représente actuellement 75% de notre énergie. Donc on ne peut pas abandonner 75%
de notre énergie électrique.
Électrique, oui. On ne peut pas l'abandonner du jour au lendemain, ce n'est pas possible.
Mais le pronostic a l'air quand même plus optimiste que celui que certains nous ont donné. Hein. On va rappeler quand même la raison de votre venue. Donc vous venez proposer une marche contre le nucléaire, ou en tout cas pour la transition énergétique. Elle se déroulera le 25 novembre à Die, de 14h à 16h. On peut peut-être évoquer l'itinéraire, Marc ou Mireille, l'un de vous deux.
L'itinéraire est tout simple. Départ de la place de la République, la rue de l'Armellerie, la rue Camille Buffarden, le boulevard Adolphe Ferrier, le boulevard des Ursulines, du Ballon, puis du Cagnard, et la remontée vers la place de l'Évêché, place de la République. Voilà.
Avez-vous convié des politiques à se rendre à cette manifestation ?
Pas ce jour.
Pas spécialement.
Allez-vous le faire ?
On va certainement en discuter en conseil d'administration.
Oui. Les demandes d'autorisation ont été déposées à la sous-préfecture pour la préfecture et à la mairie. Donc, ils sont au courant pour l'instant. On n'a pas eu la réponse. Mais par cet intermédiaire-là, ils peuvent venir ou non. Ils prendront leur décision.
Est-ce que c'est une action simultanée ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle résonne ailleurs en France, cette action ?
Oui, elle résonne ailleurs, puisque cette date a été programmée avec sortir du nucléaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a une chaîne humaine, donc les quatrièmes dimanches d'un mois sur deux. Donc, il y en a eu une en septembre, il y a celle de novembre à 10. Ce ne sera pas une chaîne humaine, mais un concert de musique en janvier. Et il y aura la grande chaîne humaine de Paris à Nogent, le jour anniversaire de la catastrophe de Fukushima, le 9 au lieu du 11. Enfin bon, voilà, à Paris donc.
La chaîne du 25 novembre sera précédée le 24, le samedi 24, d'une projection d'un montage sur la transition énergétique et sur les énergies renouvelables. Ce montage portera essentiellement sur le scénario Négawatt, qui est un scénario reconnu pour prendre en compte tous les acteurs de la vie économique et l'incidence qu'aurait sur eux la transition énergétique. Et il est reconnu par un certain nombre de scientifiques comme tout à fait valable. Donc nous aimerions que le maximum de gens le voient, parce qu'il ne s'agit pas simplement de la transition énergétique chez les particuliers, mais aussi dans les entreprises, les collectivités locales, tous les acteurs de la vie économique en France, et voir comment nous, à notre place, en solidarité avec les autres acteurs de la vie économique, nous pouvons agir.
Mireille, Marc, voyez-vous d'autres points à évoquer?
Oui, l'uranium utilisé en France qui vient 100% du Niger, il n'y en a bientôt plus. Mais ça, on n'en parle pas.
Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous refaire du MOX. Alors avec ça,
peut-être,
je te dis pas.
Mais
hein.
Bon, voilà. Ça, on nous le...
C'est encore pire, quoi.
On nous le dit pas.
Le MOX, c'est le retraitement de l'uranium qui a déjà servi, mais donc qui s'appauvrit. Et qu'on retraite avec du plutonium et d'autres minerais. Et c'est un... En fait, on récupère très peu d'uranium. On en récupère quand même un tout petit peu. On le retraite donc avec d'autres minerais et on le réutilise. Mais il est encore beaucoup plus dangereux que l'uranium enrichi. Et actuellement, il n'y a plus que la France, donc ça, je disais ça encore hier, qui produit du MOX. L'Angleterre vient de fermer sa dernière usine de traitement de MOX. Donc il n'y a plus que la France qui en produit, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Là, actuellement, étant donné la période que nous vivons, une part de l'électricité va obligatoirement augmenter. Parce que on ne pourra pas sans arrêt utiliser la dette pour financer la recherche sur les déchets, qui n'a toujours pas abouti, l'entretien des centrales, etc. Et on va accuser le virage vers l'énergie renouvelable de faire augmenter l'électricité. Alors que ce n'est pas du tout ça, c'est qu'on est arrivé au bout du système.
Il faut 30 ans pour démanteler une centrale. Celle de Chris-Malville qui
est toujours pas démantelée.
Elle est toujours en train
de démanteler. Celle de Brennilis n'est toujours pas démantelée.
Oui, elle a été fermée en 87. Et elle est toujours en démantèlement. Donc les gens qui y travaillaient, peut-être pas autant, mais enfin, il y en a certains qui peuvent continuer à travailler au démantèlement. Et si on développe parallèlement les énergies renouvelables, les gens qui ne sont pas employés au démantèlement, on peut les brancher sur les...
Mais le démantèlement, c'est... Enfin, moi, à mon sens, c'est quelque chose d'impossible. Hein.
Quand... Ce serait quoi, alors, Mireille? Toi, tu
dirais... Ben, je ferais rien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est qu'on s'est fourgué dans un truc dans lequel on ne peut plus sortir. Les arrêter, ça, c'est certain. Mais le démanteler, les deux expériences qu'on a en France, que ce soit Grimalville ou que ce soit Brennilis, pour l'instant, on n'arrive pas à démanteler. Et à Brennilis, actuellement, tout est arrêté parce qu'on a fait la phase 1 et la phase 2 et on n'arrive pas à sortir de la phase 3, qui est la phase où il y a le plus de risques radioactifs. Et il y en a encore... Pour la phase 3, le scénario est de 15 ans encore. Elle a été arrêtée en 87, elle aussi. Donc, il faut voir la durée. Donc, on se dit, et c'était un seul réacteur de 170 MW. Maintenant, on a des réacteurs de 900 MW. Et on en a 3 ou 4 par centrale. Quand tu entends ça, tu dis, attends, mais où?
Allez, comment fait-on pour rejoindre la DTE?
C'est-à-dire l'association d'IWAS pour la transition énergétique.
Au téléphone 04 75 21 19 10, par courriel transition.energetique.diwa@orange.fr.
On va rappeler les coordonnées du mouvement national Sortir du nucléaire. Donc c'est www.sortirdunucléaire.org.
Org. Et le mail, c'est la même chose, mais .fr.
L'association d'IWAS pour la transition énergétique vous propose le 25 novembre de 14h à 16h une chaîne humaine donc qui partira place de la République et qui nous amènera donc...
Retour à la place de la République.
Eh bien, retour à l'envoyeur, place de la République. Merci Marc, merci Mireille pour toutes ces précisions. Je vous souhaite une bonne marche, j'espère qu'elle fera du bruit, qu'elle résonnera en faveur de la transition énergétique. Merci à vous deux.
Merci.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.